VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
16h à Ouagadougou, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre bulletin de nouvelles. En Somalie, attaque de deux restaurants à Mogadiscio par un commando de six islamistes Shebab. Environ 18 personnes ont été tuées, Solange Niamoulissa.
L'attaque a débuté mercredi soir vers 20h par l'explosion d'un véhicule piégé contre deux restaurants voisins. Parmi les 18 victimes figure un cuisinier syrien. 10 personnes ont également été blessées, dont le restaurant Club Post Street, très populaire parmi les jeunes de la capitale. 5 assaillants armés ont ensuite attaqué le restaurant voisin, Pizza House, bondé à 7 heures de rupture du jeûne. Le porte-parole du ministère de la Sécurité, Mohamed Ahmed Arab, a affirmé que tous les assaillants ont été tués par les forces de sécurité. Cette attaque est la première menée par les Shebab à Mogadiscio depuis les débuts du Ramadan. Les Shebab, affiliés à Al-Qaïda, sont en lutte depuis une décennie contre les autorités somaliennes.
Lesotho, à la veille de l'investiture du nouveau Premier ministre de ce petit État enclavé dans l'Afrique du Sud, l'épouse de Thomas Tabane, le récent vainqueur des élections législatives, a été tuée par balle hier soir. Le point avec Ekia Badou.
L'Ipoleto Tabane, 58 ans, en instance de divorce depuis des années avec M. Tabane, a été abattu au sud de la capitale Maseru. L'assassin a ouvert le feu sur Mme Tabane qui est morte sur le coup, alors que l'autre femme qui l'accompagnait est toujours entre la vie et la mort. L'identité de l'assaillant qui a pris la fuite n'est pas encore connue. Le futur Premier ministre est remarié à une autre femme, mais s'est dit choqué par la mort de sa première épouse. Il doit être investi demain au stade de Maseru et devra former un gouvernement de coalition. Son parti, la Convention des Basotho, communément appelée ABC, s'est imposé lors du scrutin du 3 juin en emportant 48 sièges sur les 120 que compte le Parlement.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Burundi, les tortures et les assassinats d'opposants n'ont pas cessé dans le pays, selon la présidente d'une commission indépendante de l'ONU sur ce petit état de la région des Grands Lacs. Des allégations rejetées par le gouvernement burundais. Les enquêteurs de la commission qui se sont vus refuser l'entrée au Burundi fondent leur opinion sur la crise burundaise en cours depuis 2015 sur 470 témoignages recueillis auprès des réfugiés burundais qui ont fui vers le pays voisin. Ils affirment qu'il existe un sentiment de peur profonde et généralisé dans le pays. La commission d'enquête onusienne créée en septembre 2016 a pour mandat d'établir si, parmi les graves allégations de violation des droits humains au Burundi, certaines pourraient constituer des crimes de droit international et, le cas échéant, identifier les auteurs de ces violations. Au Nigeria, le général Nuon Agbazo a annoncé à la presse qu'aucune enquête ou poursuite ne serait engagée contre les hauts gradés de l'armée nigériane mis en cause dans un rapport d'Amnesty International pour des exactions commises dans le conflit avec le groupe djihadiste Boko Haram. 2 ans après la publication de ce rapport, le général Agbazo a souligné hier qu'il n'y avait aucune preuve contre les commandants cités. Actualité aux États-Unis maintenant, le président américain Donald Trump a-t-il fait obstruction à la justice dans l'enquête sur une éventuelle ingérence russe dans la présidentielle américaine 2016? Le procureur spécial qui chapeaute l'investigation s'intéresse à cet aspect du dossier, selon les médias américains John Lindon.
Robert Mueller, ancien chef du FBI, veut déterminer si le président américain a tenté de freiner ou bloquer l'enquête sur cette ingérence et une possible collusion entre les proches de Donald Trump et la Russie. La révélation a été faite par le Washington Post qui cite des sources anonymes. Le New York Times a également publié les mêmes informations. Le grand quotidien de la capitale affirme par ailleurs que les enquêteurs sont à la recherche de potentiels délits financiers chez les collaborateurs du milliardaire républicain. Le procureur Mueller aurait sollicité des entretiens avec 5 responsables du renseignement. Ces entretiens pourraient s'éteindre dès cette semaine, selon le Washington Post. Le président américain, qui a souvent parlé de chasse aux sorcières, a fait un tweet ce matin en disant, et je cite, « Ils ont fabriqué une collusion bidon avec l'histoire russe, ils n'ont trouvé aucune preuve, et maintenant, ils se lancent dans l'entrave à la justice sur cette histoire bidon. »
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Morgane Guerrier au micro pour la Minute Éco. Le Sénégal obtient un nouveau prêt de 6,6 millions d'euros pour l'extension de la centrale au fioul de Toben. L'Emerging Africa Infrastructure Fund a octroyé cette somme à Melek Power Gen, qui gère la centrale, mise en service en 2016. Ce prêt d'une durée de 13 ans doit permettre d'ajouter un nouveau groupe de 19 MW à celui de 96 MW et qui fera passer la capacité à 115 MW. Alimentée au fioul lourd, la centrale de Toben pourra être convertie au gaz naturel une fois que cette ressource sera disponible depuis les gisements découverts au Sénégal. La Guinée veut lancer son premier cycle d'octroi de licences pétrolières et gazières. C'est ce que rapporte l'agence Ecofin, citant l'Office national du pétrole. D'après Offshore Energy Today, le cycle sera ouvert pendant 6 mois à partir d'octobre 2017 et les résultats seront disponibles courant octobre 2018. République démocratique du Congo, les deux consortiums qui demeurent dans la course pour la construction de la centrale hydroélectrique d'Inga 3 sont invités à soumettre une offre unique et conjointe de développement de l'infrastructure. Cette annonce a été faite par l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga.
VOA Afrique, dites-le à un ami.
Branché sous le monde avec VOA Afrique.